Vous écoutez, on lit pour vous.
Spiritualité autochtone, entre réconciliation et appropriation, un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes. Alors que les peuples autochtones se réapproprient leur spiritualité et leurs cérémonies pour renouer avec leur culture et guérir les blessures intergénérationnelles, de nombreuses personnes non autochtones intègrent aussi des éléments autochtones à leur spiritualité alternative. La dimension spirituelle contribue-t-elle à la réconciliation ou glisse-t-elle vers l'appropriation culturelle? La spiritualité nous connecte à notre culture et à nos ancêtres, observe Daphné Anne Olepika Takpani Kiguktak. L'Inuk a grandi auprès d'une mère québécoise et a rendu visite à sa famille biologique au Nunavut à l'âge de 25 ans. « Je n'ai pas grandi avec un père. Alors j'ai trouvé quelque chose qui me fait sentir en sécurité », raconte-t-elle. « Pour moi, c'est le ciel qui est venu combler ce vide et qui veille sur moi, peu importe où je me trouve sur terre. » La spiritualité est reconnue pour jouer un rôle central dans la réappropriation culturelle et identitaire, mais aussi dans la guérison des traumatismes intergénérationnels liés à la colonisation ou au pensionnat pour autochtones. Pour des personnes non autochtones, la spiritualité peut ouvrir des espaces de rencontre et de partage ou permettre d'approfondir des liens avec des personnes autochtones. Surveillante en qualité sur les chantiers du territoire de la baie James, Loulou, non fictif, a noué plusieurs amitiés avec les Cris. Elle a régulièrement été invitée à des cérémonies comme la hutte de sudation, la cérémonie de la pleine lune et du calumet de la paix, et des powwows. C'est une très grande marque de respect et de confiance d'être invitée, reconnaît celle dont la spiritualité est ancrée dans la nature et qui a décoré son tambour autochtone de symboles celtiques, reflétant ses propres origines. Pour qu'on soit invité à se joindre à eux, c'est parce qu'il y a des relations interpersonnelles significatives. Quête spirituelle. La spiritualité autochtone inspire un nombre croissant de personnes non autochtones engagées dans des démarches spirituelles alternatives ou ésotériques, en particulier les femmes. C'est le cas de Gisèle Rollin, praticienne de soins énergétiques en Mauricie. Celle-ci organise régulièrement des roues de médecine, un symbole de la culture autochtone ayant été assimilé au mysticisme Nouvel Âge, mêlant tambours autochtones, cristaux et animaux totémiques. Je travaille avec tous les sons vibratoires qui viennent réveiller les mémoires cellulaires à l'intérieur de nous, raconte celle pour qui le tambour rappelle le battement du cœur de la mère. Elle s'est découvert des ancêtres Mohawks. Sans se revendiquer néo-métisse, elle perçoit cette ascendance comme un complément à sa spiritualité, mélangeant des pratiques et des croyances diverses. Cette fascination pour les traditions autochtones est également visible dans les nouvelles spiritualités québécoises, notamment celles appartenant au courant Nouvel Âge. Les nouvelles formes de religion, comme le paganisme, le druidisme, le chamanisme, tentent de revaloriser les savoirs et la spiritualité autochtones, estime l'anthropologue des religions Nicolas Boissière, qui a consacré sa thèse de doctorat à l'étude de la communauté druidique du Québec. Depuis les années 1970, des cercles rassemblant autochtones et non-autochtones ont popularisé les rituels autochtones, particulièrement sous l'impulsion du leader spirituel William Comanda, décédé en 2011 à l'âge de 97 ans. Aujourd'hui, des figures comme le leader spirituel Anisinaphe, Dominique Ranquin et sa partenaire Marie-Josée Tardif transmettent ces savoirs lors de stages de ressourcement incluant des cérémonies traditionnelles et l'expérience de la hutte de sudation. Mon rôle, c'est d'être là comme un maillon dans la chaîne de transmission des savoirs millénaires autochtones devenus si utiles dans notre monde en déroute, écrit Marie-Josée Tardif sur son site web. Des initiatives valorisant la spiritualité sont aussi apparues dans des institutions, notamment l'Église et le système carcéral. À Edmonton, l'Église Sacred Heart Church of the First Peoples intègre des rituels autochtones au rite chrétien. Dans l'édifice, la sauge brûle à côté de l'encens, des pôles de tipi ont été dressés et une roue de médecine a été dessinée dans le vitrail. En Ontario, comme dans d'autres provinces, des soins spirituels sont offerts aux détenus autochtones ainsi qu'à ceux qui croient sincèrement dans ces pratiques. Le danger de l'appropriation. Mais le sujet reste extrêmement sensible, voire controversé, au sein des communautés autochtones. Pour les participants, participantes non autochtones, les cérémonies sont l'occasion de rencontrer et de nouer des amitiés avec des autochtones. En même temps, les cérémonies et les savoirs risquent de se mélanger, d'être commercialisés et de perdre leur sens et leur forme, ce qui irait à l'encontre du mouvement de revitalisation qui est orienté vers la reconstruction et la décolonisation, alerte Marie-Noël Petro-Pavlovski dans sa thèse de doctorat consacrée à la rencontre entre autochtones et non-autochtones dans les rituels de guérison, est publié en 2018. Au cours des dernières années, de faux chamans se sont appropriés des rituels pour commercialiser à leur profit des ateliers ou des produits médicinaux divers. Une adaptation extrême de l'expérience de la hutte de sudation par une guide spirituelle autoproclamée a provoqué la mort tragique d'une jeune mère en 2011. Acheter et porter des bijoux autochtones, c'est de l'appréciation culturelle. Mais imiter les méthodes autochtones à des fins lucratives, c'est de l'appropriation culturelle, explique Daphné Anne Olepika Takpani Kiguktak. L'appropriation culturelle peut être perçue comme une forme de prédation culturelle exacerbée par le contexte colonial et les traumatismes historiques subis par les peuples autochtones. Le sentiment d'être dépossédé de sa culture et de son identité est renforcé par l'appropriation des symboles et des pratiques spirituelles par la culture dominante. Le mélange des traditions autochtones avec d'autres spiritualités, comme celle du Nouvel Âge, peut aussi être perçu comme une forme de contamination culturelle qui menace l'authenticité des pratiques. Si vous allez dans une communauté, une cérémonie, allez trouver une personne ressource à qui poser des questions. Est-ce que j'ai le droit d'y participer? Est-ce qu'il y a un chemin à suivre après la cérémonie? Conseil Daphné Anne Olepika Takpani Kiguktak. C'était Spiritualité autochtone entre réconciliation et appropriation, un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 12 décembre 2024 dans La Gazette des femmes.
Quitter ou pas Facebook. Un texte de Nathalie Collard, paru le 16 janvier 2025 dans la presse. Les récentes décisions du grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ainsi que sa soudaine proximité avec le président des États-Unis, Donald Trump, ont provoqué une réflexion chez notre chroniqueuse. Chaque jour, je vais faire mon tour sur Facebook. Pour prendre des nouvelles des amis et de la famille éloignée, pour commenter le dernier épisode de Stat, pour liker les photos de voyage d'un collègue. J'ai trouvé mon appartement actuel grâce à mon réseau Facebook. J'y ai appris qu'une ancienne amie du parc à chiens avait eu son deuxième enfant, qu'une cousine éloignée avait pris sa retraite et qu'une connaissance venait d'arrêter la consommation d'alcool. Sur Facebook, j'ai aussi donné des sous à des campagnes GoFundMe pour aider des gens qui passaient un mauvais moment et je me tiens au courant des nouvelles de mon quartier. Facebook me permet aussi d'offrir mes condoléances ou de souhaiter un joyeux anniversaire à des dizaines de personnes que j'aurais oubliées autrement. Pendant la pandémie, c'est Facebook qui m'a permis de garder le contact avec des dizaines d'amis sans passer mes journées au téléphone. Bref, je ne suis pas différente des millions de Québécois qui fréquentent ce réseau social chaque jour. J'oserais même dire que, malgré les inévitables prises de bec et les publicités agressantes, on y retrouve souvent ce qui ressemble à un esprit de communauté. Ces jours-ci, toutefois, j'ai un problème de conscience. Je suis en total désaccord avec les récentes décisions de Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram. D'un côté, j'aurais envie de fermer mon compte, mais de l'autre, je veux rester branché à mon réseau. Mon malaise a débuté avec le blocage des contenus produits par des médias d'information, dont mon journal La Presse. Plusieurs contournent le problème en publiant des liens vers les textes dans les commentaires, mais ça ne change rien au fondement de cette décision, la négation de l'importance du travail des journalistes dans une société démocratique. Je suis resté sur Facebook malgré tout, mais depuis, la série des raisons pour lesquelles je devrais le quitter ne cesse de s'allonger. La principale est celle de mettre fin à la modération de fausses informations et de propos haineux. Zuckerberg justifie sa décision au nom de la liberté d'expression, prétextant que de toute manière les modérateurs sont biaisés. La modération n'était peut-être pas parfaite, mais alors, pourquoi ne pas l'améliorer plutôt que de l'éliminer? Si Facebook est capable de m'envoyer une publicité de bière sans alcool quand j'écris le mot « sobriété », je suis convaincu qu'il est capable de développer des outils de modération plus performants. Des internautes ont riposté à cette décision en faisant circuler un avis de décès de Zuckerberg dans lequel on affirmait que ce pédophile était mort des suites de la COVID-19. Un mensonge, bien sûr, mais surtout une démonstration par l'absurde qu'on peut désormais écrire n'importe quoi. La vérité, c'est que Zuckerberg se fiche bien de la liberté d'expression. S'il s'en souciait vraiment, il n'aurait pas censuré les médias au Canada. Ce qu'il veut avant tout, c'est faire de l'argent et montrer au président des États-Unis, Donald Trump, qu'il fait partie de sa gang. Comme l'ado, exclu, qui tente par tous les moyens de plaire aux plus populaires pour se faire inviter à son party. C'est réussi. Zuckerberg assista à l'investiture du nouveau président. Le patron de Meta semble avoir adopté de nouvelles valeurs plus alignées sur celles du mouvement MAGA. Un exemple? Fini la promotion de la diversité. Ça va aussi loin qu'interdire certains thèmes associés au transgenre, comme couleur de fond dans Messenger, la messagerie de Facebook. Une intrusion qui nous rappelle qu'on a tort de croire que cet espace est privé. Notre boîte Messenger appartient à Meta, et tant pis pour notre liberté d'expression. Dans une longue entrevue de 3 heures au micro de Joe Rogan, dont la série Balado est la plus écoutée aux États-Unis, Zuckerberg a déclaré qu'il souhaitait plus d'énergie masculine au sein de son entreprise. Petit rappel, les 2/3 des employés de Meta sont des hommes. À ceux qui seraient surpris par cette déclaration, j'ai envie de dire « Zuckerberg est juste en retard sur la tendance. En 2023, le magazine en ligne Vox parlait déjà de cette montée du masculinisme primaire dans la Silicon Valley. Popularité des sports de combat chez les dirigeants d'entreprise, montée d'une rhétorique plus agressive et départ d'un nombre significatif d'employés féminines. Zuckerberg est risible lorsqu'il essaie d'être dans le coup pour plaire à son nouveau bro. Alors, que faire quand les positions du président d'une entreprise qui fait partie de notre quotidien vont à l'encontre de valeurs qui nous tiennent à cœur? Ce n'est pas comme si Zuckerberg vendait une marque de yogourt et que je n'avais qu'à en acheter une autre pour ne pas contribuer à son enrichissement. Je me sens piégé, presque otage de Meta. Je n'ai pas d'autres endroits où me réfugier. X est devenu un champ de mine. LinkedIn m'ennuie et Blue Sky ne m'a pas encore convaincu de faire le saut. Bref, pour l'instant, je ne vois pas d'autre option. Je vais poursuivre ma réflexion, mais je serais bien curieuse de connaître la vôtre. Quitter Facebook ou rester? C'était « Quitter ou pas Facebook », un texte de Nathalie Collard paru le 16 janvier 2025 dans La Presse.
Parler à notre téléphone. Un texte d'Alex Fontaine paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000, Le Devoir replonge dans un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, le téléphone cellulaire qui est venu changer nos façons d'interagir les uns avec les autres. La scène va comme suit. Une dizaine de préadolescents font une soirée pyjama dans le sous-sol d'un bungalow. Nous sommes en l'an 2000. Tous se regroupent autour de l'unique téléviseur à écran cathodique, s'il vous plaît, pour regarder un film et vivre une expérience commune. Maintenant, on avance de 25 ans. Des préadolescents se réunissent toujours, mais au lieu de regarder un téléviseur, ils fixent l'écran de leur téléphone cellulaire et réagissent aux vidéos qu'ils s'envoient sur TikTok, chacun de son côté. La scène n'a rien de farfelu. C'est le genre de situation observée par des spécialistes de l'enfance. Et on peut penser à une panoplie de problèmes qui accompagnent l'utilisation d'un téléphone. À plusieurs bienfaits aussi. Une chose est sûre, notre modèle d'interaction a changé, affirme Audrey-Anne Deneau, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Au début des années 2000, une adolescente pouvait facilement passer des heures au téléphone à parler à une amie, rappelle-t-elle. 25 ans plus tard, une adolescente peut passer autant de temps les yeux rivés sur un écran de téléphone portable, mais à regarder des images de gens qui présentent une version parfaite d'eux-mêmes. Ça finit par avoir une influence sur l'estime de soi des jeunes. Madame Deneau est spécialiste de la technoférence, l'idée selon laquelle le téléphone cellulaire devient une barrière dans plusieurs interactions qu'on a au quotidien. On pense par exemple à quelqu'un qui interrompt une conversation durant le souper lorsqu'une notification apparaît. Ça peut vraiment venir interférer dans les relations et aussi signaler à la personne qui est victime de cette interruption-là qu'elle est peut-être moins importante que ce qui se passe sur le téléphone. L'utilisation du cellulaire a de quoi inquiéter. Si on pense aux relations parents-enfants, on sait que c'est presque une minute sur trois que le parent est avec l'enfant qu'il passe sur son cellulaire, avance-t-elle. Bref, les relations parents-enfants deviennent de moindre qualité. Et contrairement à d'autres distractions, comme la télévision, le téléphone nous suit partout. Un survol de la littérature scientifique n'a rien de rassurant. Des méta-analyses démontrent que l'accroissement du temps d'écran des enfants est associé à davantage de troubles de comportement, de déficits d'attention, d'hyperactivité, de dépression et d'anxiété. Plus de temps d'écran chez les jeunes est aussi associé à une diminution des habiletés à communiquer. On estime aussi que 75% des enfants de moins de 2 ans passent trop de temps devant un écran. Même du côté physique, il y a aussi plus de risques de blessures chez les jeunes quand leurs parents sont absorbés par leur téléphone, puisqu'ils sont distraits et surveillent moins leurs enfants, lesquels ont souvent le don de se mettre en danger. Pourquoi on l'aime? On a un attachement à cet objet-là parce qu'il fait partie de notre quotidien. On crée un attachement avec des objets techniques à partir du moment où ils s'insèrent dans une grande partie de nos tâches habituelles, de nos routines, explique Camille Allouin, professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, le téléphone sert à se réveiller, à planifier ses journées, à se connecter à Internet, à communiquer, à regarder l'heure, souligne l'expert. Il y a eu un tournant en matière d'ergonomie qui est l'arrivée de l'iPhone, dit-il. En parallèle, on a vu l'évolution de l'ingénierie même du téléphone autour de 2008-2009 qui permettait alors de faire bien plus que de téléphoner, mais aussi d'accéder à Internet et d'utiliser une interface tactile, le tout à des coûts relativement abordables. Ce n'est pas seulement sa simplicité qui a encouragé son adoption, selon l'expert en communication. Le cellulaire permet aussi une individualisation de l'accès à l'information, c'est-à-dire que cette dernière a été organisée selon les préférences de l'utilisateur. Résultat, le téléphone dit « intelligent » permet d'avoir continuellement un moyen de tromper l'ennui. Quand on avait des journaux et des magazines, on avait la possibilité d'en venir à bout. Mais plus maintenant, le flux d'informations est perpétuel. C'est sans compter que le téléphone portable, on l'aime un peu malgré nous. Ce sont des appareils qui sont faits pour devenir obsédants, pour capter notre attention, mais sans nécessairement avoir des buts relationnels, affirme Audrey-Anne Deneau. Vous écoutez « Parler à notre téléphone », un texte d'Alex Fontaine, paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir. Une question de dosage. On diabolise souvent le téléphone cellulaire, mais il permet aussi de voir des gens qu'on n'aurait pas vus autrement. Échanger avec des grands-parents au moyen d'un appel vidéo peut permettre de briser la solitude, et ça, c'est quelque chose qui peut être assez positif, selon Mme Deneau. Alors, bon ou mauvais, le téléphone portable? C'est un jugement de valeur, soutient Camille Allouin. Il précise que les critiques qu'on peut en faire sont souvent subjectives, et y va d'un exemple. Certains vont juger des parents qui donnent un téléphone à leur enfant qui pleure au restaurant. Mais on ne connaît pas toute l'histoire. Est-ce que c'est la seule fois de l'année où ils font ça? Évidemment, laisser son enfant collé à l'écran d'un téléphone n'est pas la meilleure idée du monde pour son développement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toute utilisation est problématique, explique M. Allouin. C'est une question de dosage des pratiques. Le rapport aux écrans peut bien sûr être problématique. Par exemple, si quelqu'un se sert de son téléphone pour aller sur des sites de paris en ligne et en sort ruiné, précise-t-il. Mais l'utilisation dite problématique se définit aussi par rapport à certaines normes partagées ou pas par des groupes sociaux, dit M. Allouin. À quoi s'attendre pour les 25 prochaines années? Si avant, on parlait avec notre téléphone, de plus en plus, on va parler à notre téléphone, un phénomène qui devrait s'accentuer avec l'essor de l'intelligence artificielle, affirme Camille Allouin. Le cellulaire va se charger d'organiser notre quotidien, selon lui. On va avoir de plus en plus des liens sociaux qui vont se construire avec ces intelligences artificielles qui vont être dans nos téléphones, puisqu'elles pourraient, par exemple, répondre à notre place et avec notre voix. Cette personnalisation sera poussée à l'extrême, dit-il. Je pense qu'on va arriver à des moments où ça va être nos téléphones qui discutent entre eux, à notre place. L'intelligence artificielle pourrait cependant contribuer à briser l'isolement de certaines personnes, car c'est bien beau d'avoir un téléphone qui peut se connecter à plein d'individus. Mais si on n'a aucun individu avec lequel se connecter, l'appareil deviendra aussi quelque chose qui va briser notre isolement, avance M. Allouin. Le développement rapide de l'intelligence artificielle inquiète Audriane Deneau. Pour l'instant, on voit encore de vraies personnes sur les réseaux sociaux, même si l'image qu'on nous présente peut être altérée. À terme, on pourrait avoir dans sa poche un partenaire social à qui on pourrait parler plus souvent qu'à de vrais humains, selon elle. Il faudrait au moins qu'on prenne conscience d'à quel point notre téléphone est devenu une partie intégrante de notre vie et de nos interactions, dit l'experte. En prendre conscience permettrait de mettre des limites. Car on n'arrêtera pas de l'utiliser, mais on peut tout de même contrôler où et quand on le fait. Le téléphone cellulaire en quelques moments clés. 1973. Martin Cooper, un ingénieur de Motorola, fait le premier appel cellulaire de l'histoire. Il a téléphoné à Joel Engel, un directeur chez AT&T, une entreprise rivale. 1983. Motorola présente le DynaTAC 8000X, le premier téléphone portable qui sera vendu au grand public. Il pèse un peu plus d'un kilo et une charge de 10 heures procure une trentaine de minutes d'autonomie. 1994. Le premier téléphone intelligent est commercialisé par IBM. Nommé Simon, il permettait notamment d'utiliser un calendrier, un carnet d'adresses et une calculatrice. 2002, l'entreprise canadienne BlackBerry dévoile son premier téléphone, le 5810. Il permet notamment d'accéder à Internet et d'envoyer des courriels. 2007, Apple lance l'iPhone qui va séduire les consommateurs avec son grand écran tactile. Sa popularité viendra mettre fin à la domination de BlackBerry. C'était « Parler à notre téléphone », un texte d'Alex Fontaine paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir.